Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co. Je retrouve, comme chaque semaine, mon complice Sylvain Zimmermann. Bonjour Sylvain.
Bonjour François, bonjour à tous. Nous poursuivons donc notre série consacrée aux idées reçues sur l'économie. Septième idée reçue, les inégalités n'arrêtent pas de progresser en France et dans le monde. Alors qu'en est-il vraiment, François ?
Comme toujours, tout dépend de ce qu'on mesure. C'est vrai que... Et sur ce... sujet-là particulièrement, les opinions politiques du locuteur sont déterminantes. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à sélectionner les indicateurs qui corroborent votre vision du monde et votre programme politique. Commençons par la mesure habituelle, la plus simple. C'est le rapport entre les revenus des 10% les moins payés en France et les 10% les plus riches en France. Après impôts et redistribution. J'insiste là-dessus parce que c'est une composante très importante. Les impôts limitent les inégalités. Ça prend aux plus riches, donc ça diminue le revenu des plus riches. Et la redistribution fait le contraire. Elle donne aux plus pauvres, donc elle aussi limite les inégalités. Eh bien, ce rapport, il est aujourd'hui, selon l'Observatoire des inégalités, de 3,4. Autrement dit, le revenu des 10% les plus riches est 3,4 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. C'était de 4,6 dans les années 70. Ça montre bien que ça a baissé depuis 50 ans, mais c'est vrai que en réalité, le gros de la baisse s'est fait pendant les 30 Glorieuses et que depuis les années 80, ça ne bouge quasiment plus. C'est stable aux alentours de 3,4. Ça correspond à un niveau que nous n'avons pas changé malgré l'explosion de la redistribution.
Mais on voit quand même l'explosion des grandes fortunes. Bernard Arnault, par exemple, patron de LVMH, est devenu l'homme le plus riche du monde.
Oui, mais là, vous mettez justement le doigt sur la diversité des indicateurs. En réalité, c'est pas contradictoire. Parce que quand on s'intéresse au sein du 10% les plus riches, aux très, 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 très riches, leur fortune a considérablement augmenté depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est-à-dire que le rapport entre les déciles, c'est les fractions de 10% de la population, il est stable, il est à 3,4. Mais le rapport au sein de chaque décile, et notamment du décile le plus riche, lui, il a changé. Les très très riches sont beaucoup plus riches qu'auparavant. Et il faut quand même ajouter que tout ça s'est passé dans un très petit nombre de foyers. C'est les 0,1% de la population, donc on est sur le millième, voire les 0,0001.
Alors, quelle est la cause, François ?
Il y en a plusieurs. On entend les économistes comme Piketty et autres qui nous disent c'est le niveau des impôts qui a baissé. Ce sont pour partie des billevesées. C'est vrai que le niveau des impôts a un peu baissé pour les catégories les plus riches, mais le fond du problème n'est pas là. C'est que vraiment, il y a eu une explosion des revenus des plus riches. Pourquoi ? La mondialisation est certainement une des causes, parce que ça donne l'opportunité aux talents, qu'ils soient dans l'intelligence artificielle, la musique ou le football, d'augmenter considérablement leurs revenus. Il y a un exemple qui est pris par François Bourguignon, qui est un économiste, qui est assez éclairant. Prenez Caruso et Pavarotti, deux ténors. Ils ont les mêmes caractéristiques physiologiques. Ils ont une voix extraordinaire. L'un chante à 100 ans d'écart de l'autre. Caruso vend quelques milliers d'enregistrements. Pavarotti vend des millions de disques, parce que le marché est mondial. Il est infiniment plus riche que Caruso. Et tout est là. L'autre élément, c'est la financiarisation de l'économie, bien sûr, qui est liée à la mondialisation. C'est-à-dire le fait que, notamment pour les propriétaires des entreprises, quelquefois les salariés, la richesse est valorisée par la bourse qui elle-même est connectée aux circuits mondiaux de la finance. Donc ça a fait progresser de façon très importante la valeur des actifs, donc le revenu de certains. Mais le déterminant principal, c'est la liberté du capital. Ça date pour l'Europe de 1990 ou 12. Et on a quitté une économie fermée au sein de laquelle les opportunités de gain étaient plus faibles, où effectivement la taxation était plus facile. Aujourd'hui, si vous voulez taxer un super riche, il s'en va.
Ah bah oui.
Et il a tout à fait la possibilité de le faire en emportant au vu aussi tout le monde et sa richesse et les moyens de la poursuivre. Donc le rapport de force a un peu changé entre la puissance taxatrice et la viande taxée en quelque sorte.
On parle toujours du coefficient de Gini pour mesurer les inégalités. De quoi s'agit-il ?
Oui, c'est effectivement une façon de mesurer les inégalités d'une société. C'est assez particulier. En fait, on classe les pays en fonction de leurs résultats à ce test. Le résultat qui est compris entre 0 et 1. 0, ça serait un pays où tout le monde a exactement la même richesse. Et 1, à l'opposé, toute la richesse serait détenue par un seul individu. C'est évidemment le pays le plus inégalitaire. La France est à 0,34, mesurée sur cette échelle.
Et comment sommes-nous classés ?
Dans les pays européens les moins inégalitaires, l'Europe étant elle-même le continent le moins inégalitaire. Autrement dit, on est un des pays les plus égalitaires au monde.
Alors que les Français sont persuadés qu'il y a des inégalités.
Mais il y a une espèce de passion de l'égalité presque névrotique en France qui fait qu'on n'est jamais content et qu'on voudrait justement éradiquer toute source de différence et même quelquefois toute source de talent ou de réussite. Hein, parce qu'on préfère une société égalitaire à une société où les talents et les réussites justement génèrent des inégalités trop fortes. Mais il faut quand même dire qu'on est dépassé par les pays du Nord, la Suède par exemple, plus égalitaire que nous, et certains pays ex-communistes, comme la Slovaquie ou la Slovénie. Les États-Unis, il faut se comparer à eux, ils sont à 0,58. Donc beaucoup moins égalitaires que nous. Hein. Au même niveau que l'Iran et les Philippines. Les BRICS, les fameux BRICS, Chine, Brésil, sont aux alentours de 0,50. Pays très inégalitaires aussi. Mais il faut dire quand même que pour cela, l'indice de Gini, c'est une mesure très incomplète.
Pour quelles raisons ?
Prenez la Chine. Si vous comparez le pays d'aujourd'hui à celui d'il y a 40 ans, 1984, le Gini a explosé, parce qu'il y a évidemment des milliardaires, c'est Jack Ma et autres, alors qu'il y a 40 ans, on était dans une société communiste, avec d'infimes différences de niveau de vie apparent au moins entre le médecin et l'ouvrier, entre le cadre du Parti communiste et le cantonnier. En réalité, il y avait des différences de privilèges importantes liées à la proximité ou pas des élites politiques. Mais en apparence et en nombre de yuan, la monnaie locale gagnée, il y en avait peu. Mais cette comparaison entre société apparemment égalitaire et aujourd'hui où il y a des milliardaires, elle ne rend pas compte de l'extraordinaire élévation du niveau de vie sur la période. Parce que, entre-temps, la classe moyenne s'est développée grâce à l'ouverture, etc. Et le niveau de vie moyen du Chinois n'a rien à voir avec celui d'il y a 40 ans. Donc, si vous ne faites que mesurer la répartition des richesses, vous ne mesurez pas l'extraordinaire transformation qu'il y a eu en deux générations.
Autrement dit, il n'y a pas de mesure parfaitement juste.
C'est exactement ça. Ça n'existe pas. De toute façon, en économie, les mesures justes, c'est rare. Il faut souvent s'appuyer sur plusieurs indicateurs. Mais en matière sociale, c'est particulièrement vrai. D'autant que pour complexifier encore, mais raffiner de façon utile l'analyse qu'on peut faire du sujet, les inégalités, ça ne doit pas se mesurer seulement en termes statiques. C'est pour le coup le défaut, malgré les grandes qualités du travail de Piketty historique sur la répartition du capital, parce que c'est une compilation de données très intéressante, mais c'est que vous devez aussi apprécier si à partir d'une situation, les citoyens ont la capacité d'améliorer leurs conditions ou celles de leurs enfants. Cette dynamique, elle est très importante. Par exemple, un pays comme les États-Unis est réputé favoriser davantage l'ascension sociale que chez nous. Je pense que c'est vrai, parce que chez nous, le poids du milieu social, de la formation... J'étais frappé récemment par le fait que j'étais... Dans un endroit avec plusieurs personnes de 60-70 ans qui occupaient des fonctions assez élevées en France, à la fois dans l'administration et dans les entreprises privées, la plupart, à 60 ou 70 ans, parlaient encore de leurs études, l'ENA en l'occurrence. C'était très étonnant, au fond, leurs études, elles avaient plus de 50 ans, un demi-siècle, mais ils sont toujours à se dire quelle promotion t'as fait, machin, et t'as connu, machin, et tout est là, hein, c'est-à-dire que on est quand même dirigé par une forme de caste dans laquelle les outsiders, comme on dit, n'ont que peu de place. C'est pas le cas des États-Unis. Regardez Elon Musk. Bon, c'est pas un pauvre. Enfin, il vient d'Afrique du Sud et il a pu construire son entreprise. Donc, c'est aussi une dimension qu'il faut rajouter à l'analyse. Et de ce point de vue, aussi aux politiques publiques. L'idée n'est pas seulement de réduire les différences de niveau, c'est aussi de permettre à ceux, à la base, de transpercer les couches supérieures et de pouvoir s'y installer.
Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Écho, consacré aux idées reçues. Et la semaine prochaine, de quel sujet avez-vous envie de parler, François ?
Eh bien, écoutez, de la réindustrialisation. C'est vrai qu'on nous en parle beaucoup. Le gouvernement vante, à raison, l'installation de plusieurs méga-usines en France. Pour autant, derrière, vous allez le voir, la semaine prochaine, la situation est beaucoup plus contrastée.
N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.